Porte de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Chers auditeurs, bonjour, 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 bienvenue dans les portes de la connaissance. Encore une émission, et cette fois on a Jean-Luc Aubarbier qui était venu pour un livre qui s'appelait « L'évangile de Septimanie », qui nous avait fait une belle émission. Il a des nombreux ouvrages. Combien d'ouvrages tu as, Jean-Luc, à ton actif ?
J'ai 18 romans, plus une, 25 essais à peu près. Voilà, je suis assez prolifique.
D'accord, 18 romans. Donc, vous voyez, vous avez de quoi, on a de quoi faire de belles émissions avec lui. Et aujourd'hui, on va voir Le Fils du Cabaretier, qui est un livre qui se passe à quelle époque ?
Alors, Le Fils du Cabaretier, qui est édité auprès de la Cité, se passe sur une période qui va à, de juste avant la Révolution française jusqu'à la Restauration. Donc, on traverse l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, jusqu'à la Restauration. Et ça se passe, surtout ce qui est important, ça se passe essentiellement à Bordeaux et dans la région bordelaise. Donc vos auditrices et auditeurs, j'espère, vont être ravis de ce livre, qui de cette histoire qui se déroule dans leur ville et dans leur région. Bordeaux, à cette époque-là, est la ville la plus moderne du monde, à la fin du XVIIIe siècle, et c'est une ville absolument passionnante à travailler, je vais par son histoire. Donc effectivement, ça devient un véritable personnage de l'histoire dans mon roman.
Alors vous voyez, les Bordelais, on pense à vous très fort, parce que vous avez une émission qui est consacrée à la ville de Bordeaux avec Le Fils du Cabaretier. On va parler un petit peu du Bordelais dans l'histoire, ou pas, ou on parle que du Fils du Cabaretier?
Ah non, on parle beaucoup, beaucoup de l'histoire de Bordeaux à cette époque-là. L'histoire de Bordeaux, c'est vraiment le cœur battant du monde, je trouve, quand même, à Bordeaux à ce moment-là, puisque c'est la ville la plus moderne du monde. Alors, on sait que c'est un port négrier, mais c'est pas ça, ça ne fait que 10% du commerce de Bordeaux. C'est la ville, par où le vin qui vient du haut pays, et pas seulement de Bordeaux, est exporté vers l'Europe, toute l'Europe du Nord et l'Amérique. Et puis c'est le port par où le café, le sucre, le rhum qui vient d'Amérique rentre et est diffusé en Europe. Donc on est vraiment sur une ville, d'ailleurs on le sait, qui est entièrement rebâtie à cette époque-là. Bordeaux, de la place de la Victoire jusqu'au Quincon, c'est entièrement rebâti à la fin du XVIIIe siècle. Donc je vais vous parler surtout du roman, parce que c'est quand même un roman que j'ai écrit, c'est de pas à laisser sur Bordeaux. C'est un roman qui traite de l'ascension sociale sous l'Ancien Régime. Mon idée de base, au départ, je suis parti de Stendhal, le Rouge et le Noir. Vous savez, Julien Sorel, le héros du Rouge et le Noir, c'est un jeune homme pauvre qui a 20 ans à la Restauration, qui est un peu bloqué. Il est intelligent, il est doué, mais il ne passe à grand-chose à cette époque-là. Moi, je me suis dit, et si Julien Sorel avait eu 20 ans à la Révolution, c'est-à-dire à peu près 20 ans plus tôt, quel aurait été son destin? Qu'est-ce qu'il serait devenu? C'est ça mon pitch originel quand j'ai voulu quand j'ai pensé à ce roman, puisque j'ai pensé une quinzaine d'années avant de l'écrire, donc je suis resté vraiment dans cette idée. Je m'étais dit comment je peux traiter ce sujet. J'avais un personnage sarladé qui m'intéressait, qui était Fournier Sarlovez, le futur général de l'Empire, qui est effectivement fils de Cabaretier, mais qui d'abord était un petit peu jeune pour le rôle, puisqu'il avait 20 ans en 92, c'était un peu tard, et c'est en plus un militaire, donc il est vraiment des allées et venues sans arrêt entre la guerre et Sarlat, donc ça allait pas. Donc je lui ai inventé, à Fournier Sarlovez, un frère aîné, un frère bâtard, qui plus est, donc qui sera encore plus pauvre, et boiteux, parce que je ne voulais pas qu'il aille à l'armée, donc je l'ai fait boiteux de naissance, et ce frère, donc très doué, très intelligent, qui voudrait réussir, comment peut-il réussir sous cet ancien régime? Comment va-t-il commencer son histoire, qui commence donc en Périgord avant de partir en Gironde? Et bien sûr, à cette époque-là, le seul moyen pour un jeune homme pauvre, qui s'appelle donc Corentin Fournier, c'est le seul moyen, c'est l'Église. Donc l'Église prenait sous sa houlette des jeunes gens, doués dont avaient essayé de faire des prêtres ou au moins des gens qui supportaient la politique de l'Église. Et d'ailleurs, en France, la moitié des gens savaient lire et écrire grâce aux écoles des curés, aux écoles qui n'étaient pas obligatoires, mais qui étaient très, très prisées. Et donc, mon jeune Corentin Fournier va être formé à la comptabilité, au droit, par ce prêtre, et qui lui dit, mais il faut que tu trouves, on va te trouver un protecteur pour qui tu vas travailler, voilà, qui va te prendre en main, qui te permettra de réussir. Et il part en Bordelais, avec une lettre de recommandation, auprès du marquis d'Olède, qui est le propriétaire du château Margaux. En Bordelais, on a commencé à créer, là, juste à la fin du XVIIIe siècle, les premiers grands crus. Donc il y en a quatre, c'est pas le même, Margaux est un d'eux. Et mon Corentin Fournier va donc embarquer à bord d'un bateau qui descend du Var, du Périgord jusqu'à Bordeaux, par la Dordogne, et il va s'arrêter au bec d'Anvers, lui à Margaux. Et là, il va se commencer son travail d'intendant sous la protection de ce marquis d'Olède, qui sera le personnage historique, hein, qui sera le premier maire de Bordeaux à la Révolution.
Alors, justement, on est dans l'histoire, on est dans quel coin de Bordeaux ?
D'abord à Margaux. Hein. À Margaux, il va y rester le personnage va rester pendant 2-3 ans, le temps de se faire, les jours avant la Révolution. Il va faire la connaissance à Margaux d'un deuxième personnage très important, qui s'appelle Zéphirin de Plambellec, son vrai nom, qui est un métis. Son père est un noble, de Saint-Domingue, qui a épousé une esclave, parce qu'on manquait énormément de femmes à Saint-Domingue, donc beaucoup de blancs épousaient des noirs, qui étaient libérés, et s'ils reconnaissaient leurs enfants héritaient d'eux. Et donc c'est le cas de Zéphirin de Plambellec, qui est un jeune homme noble, métis, et qui va se battre à Bordeaux, aux côtés de mon héros Corentin Fournier, pour la libération des esclaves et pour l'interdiction de la traite négrière, bien sûr. Et donc on va avoir une opposition dans mon roman avec un personnage qui est un négrier, qui est le marquis de Pontcassé, qui lui pratique la traite négrière, a des propriétés à Saint-Domingue, et donc il y a une grande opposition. C'est un des grands thèmes de l'époque, c'est pas juste pour être à la mode, hein. C'est un des grands thèmes de l'époque, puisque le clergé de Bordeaux, dirigé par Monseigneur Champion de Cissé, l'archevêque de Bordeaux, se battent pour interdire l'esclavage et pour interdire la traite négrière. Et j'ai découvert ce Champion de Cissé, personnage historique, effectivement, qui habite au Palais Rouen, donc qui est l'actuelle mairie de Bordeaux, qui est le palais d'archevêque à l'époque. Et Champion de Cissé est un des co-rédacteurs avec Mirabeau de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc on voit que c'est des personnages importants, hein, qu'on a beaucoup oubliés dans l'histoire de France, et que je pense les Bordelais n'ont pas oublié.
D'accord. Est-ce qu'on se déplace un petit peu, parce que Margaux, c'est pas à Bordeaux même, c'est...
Oui, alors au bout de quelques années, une fois que il veut réussir par lui-même, il veut devenir riche. Or, en étant juste un intendant, il sera quand même toujours qu'un domestique, et ça il ne veut pas, bien sûr. Donc il réussit à se faire reconnaître comme avocat, parce qu'à un moment de la Révolution française, tout le monde est avocat à Bordeaux, tous les gens qui font quelque chose sont avocats, à Paris aussi d'ailleurs, hein. Donc il se fait reconnaître comme avocat, et il va travailler pour le marquis d'Olède à Bordeaux, puis donc il va travailler sur les chartrons, hein, puisque c'est là que se passe le commerce du vin. Il a convaincu son protecteur, le marquis d'Olède, d'exporter par lui-même le vin, parce qu'il y a un gros bisbille entre les producteurs d'une part et les négociants. C'est pas le même monde, les négociants sont souvent étrangers, sont souvent protestants, et donc il y a un petit peu de clash des fois. Et là, lui va convaincre le marquis d'Olède de pouvoir exporter par lui-même, donc il s'enrichit au passage, et puis il investit cette caste des Girondins, donc qui sont donc les Girondins, des hommes politiques qui veulent à la Révolution une France qui soit faite sur le modèle anglais, sur le modèle que Montesquieu voulait, autre grand Girondin, sur le modèle de Voltaire, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Ils se battent pour avoir un roi avec moins de pouvoir, et puis une chambre haute, une chambre basse, avoir à instaurer une démocratie. Et lui va participer à tous ces mouvements, à tous ces grands débats, ces grands débats qu'il y a à Bordeaux et à Paris. Et on va voir très vite qu'il y aura une opposition entre Bordeaux et Paris. À Bordeaux, tout le monde est girondin, tout le monde est modéré. À Paris, il y a des montagnards, il y a des gens qui sont beaucoup plus révolutionnaires, qui veulent abolir l'Église, supprimer le roi, instaurer, supprimer l'Église, avoir quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus dur. Et à Bordeaux même, c'est très intéressant, j'ai découvert qu'il y avait un quartier noir à Saint-Seurin, qui est constitué non pas du tout d'esclaves, mais de gens qui sont libres, notamment d'une bourgeoisie noire, qui va être le seul quartier de Bordeaux qui sera montagnard. Donc il va jouer un rôle important au moment de la Révolution, et encore plus au moment de la Terreur, puisque tout Bordeaux, toute la région, est bien sûr fortement du côté des Girondins, sauf effectivement ce quartier-là, qui va être un peu l'interface pour Paris, pour mettre un pied sur Bordeaux.
D'accord. Alors, on voyage petit à petit. On voyage de quelle période à quelle période ?
Alors, donc, on va traverser, je l'ai dit, la Révolution. Je viens de séparer dans la Révolution de la Terreur, parce que la Révolution, c'est une période douce à Bordeaux. Pendant qu'on s'étripe à Paris et qu'on prend la Bastille, qu'on s'entretue, à Bordeaux, il y a un mort jusqu'à la Terreur, il y a un mort. Alors, c'est extraordinaire, on dit, mais quel pays de concorde, quel pays de paix que ce Bordeaux du XVIIIe siècle, quel pays merveilleux, on pourrait dire, où on peut se débattre des idées et qu'il n'y ait quasiment pas de victimes. On peut dire, voilà, c'est vraiment, on peut dire, un modèle de tolérance, de concorde. On parle plutôt de concorde que de tolérance, mais c'est un peu la même chose. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis la Terreur va arriver parce que lorsque les montagnards vont faire arrêter les Girondins à Paris, bien sûr Bordeaux va se révolter. Bordeaux va lever une armée pour aller attaquer Paris, mais qui est une armée qui ne va jamais partir. D'ailleurs, les Bordelais ne sont pas du tout dans cet esprit-là, ils ne sont pas dans l'idée d'aller faire une guerre civile, en définitive. Et au final, les montagnards vont envoyer des délégués qui vont établir la Terreur à Bordeaux. Il y aura, on sait qu'il y a ce monument aux Girondins qui a été élevé sur la place de la délinquance, effectivement, l'hommage, je crois qu'il y a eu 300 guillotinés, c'est quand même quelque chose d'énorme pour une ville. Et alors, mon héros, bien sûr, lui, va se cacher dans Bordeaux, et il voit de sa fenêtre, de grenier où il est caché, il voit la guillotine s'abattre, ce qui est actuellement la place Gambetta, mais qui s'appelle pas place Gambetta à cette époque-là. Là, on voit la guillotine tomber, et il voit beaucoup de ses amis disparaître, et lui, il est caché par son ami Zéphirin de Plambellec, donc qui est un montagnard, qui est un révolutionnaire, il fait partie de ce quartier noir de Saint-Seurin, et il le protège, il le cache, jusqu'au moment où il peut l'exfiltrer, et où Corentin va se réfugier en Périgord, qui est un peu plus paisible, un peu, voilà, surtout à l'écart des grands courants de la Révolution, il va se cacher là-bas. Et on aura ensuite une nouvelle partie où il va servir l'Empire. Puisque Napoléon, c'est un révolutionnaire, mais qui aime l'ordre, il va faire cesser la Révolution en tant que telle, et il va embaucher des gens doués, des gens compétents. Napoléon aime ça. Et puis la promotion sociale, faire un officier en 15 jours ou un général en 2 mois, il sait faire. Et là, il va prendre donc mon Corentin qui a tout perdu à la Révolution. Il s'était fait une pelote et puis il a tout perdu avec la Terreur. Là, il va retrouver un poste important, puisqu'il va être nommé commissaire des guerres. Le commissaire des guerres, ce sont les gens qui rapprovisionnent l'armée de Napoléon. Ce sont des gens qui approvisionnent en chaussures, en hommes, en chevaux, en nourriture. Et donc, lui reste à Bordeaux chargé de l'approvisionnement de la grande armée. Il a un rang de colonel, en quelque sorte. Ce sont souvent les gens qui se font soumettre là sont vraiment des gens extrêmement malhonnêtes. Alors, lui va mettre une certaine rigueur, on va dire. Il s'enrichit au passage, mais il sait le faire avec intelligence. Et il va même participer assister en tout cas à une bataille. Je voulais absolument qu'il voie une bataille de Napoléon sans y participer, un peu comme le Fabrice Del Dongo de Stendhal qui voit la bataille de Waterloo sans rien y comprendre. Mon héros va aller approvisionner l'armée à Eylau. Il va au passage croiser un autre commissaire des guerres qui s'appelle Henri Beil, autrement dit Stendhal, le futur Stendhal, qui lui aussi a été commissaire des guerres. Et bon, voilà, il assiste à la grande bataille d'Eylau, la plus grande charge de cavalerie qui ait jamais existé, avec 12 000 cavaliers. Il assiste à cette bataille sans trop y comprendre. Il se virait bien dans la peau d'un héros, mais voilà, il n'est pas grand-chose. Dans la grande armée, il n'est rien. Il n'est que celui qui amène l'approvisionnement. Mais il sait faire son, son, sa pelote au passage. Hein. Il sait réussir à épouser la fille d'un homme qui a perdu la vie à la Révolution. Donc il va être renommé lui-même. Donc il va réussir à prendre sa place. Ce fils de rien, ce fils de cabaretier, grâce à la Révolution puis à l'Empire, va savoir sortir, je dirais, de sa condition. Et le roman va s'achever à la Restauration, puisque comme il sait nager, il va savoir à temps quitter le soutien à Napoléon pour soutenir le roi Bordeaux, qui est lui très monarchiste, hein, qui n'aime pas Napoléon, même si Napoléon avait promis de lui bâtir un pont qui sera le pont de pierre, qui sera bâti un peu plus tard, mais il n'aime pas Bordeaux, n'aime pas Napoléon, et donc mon héros, Corentin, va réussir à devenir monarchiste quand il faut, et donc à établir sa situation, et voilà, en partant de rien, il est devenu quelque chose, avec, on va dire, dans la tête, beaucoup de regrets, en même temps, de l'idéal de sa jeunesse. Il pensait avoir une pureté dans sa jeunesse, sur les droits de l'homme, nourri par les philosophes, par Voltaire, etc. Et voilà, il a été obligé de faire beaucoup de compromis pour arriver à être quelqu'un dans la société. Voilà, et le roman va s'achever au moment, en fait, où Stendhal écrit le Rouge et Noir. Voilà, donc, j'ai fait le lien avec mon idée de départ, avec mon idée qui est partie de Stendhal, j'ai réussi à faire le lien comme ça.
D'accord. Alors, pour nos auditeurs, Jean-Luc, on va faire une petite pause musicale, d'accord ?
D'accord.
Parce qu'on est bien parti pour voyager avec le fils du cabaretier en plein Bordeaux. Et puis, c'est vrai que on voyage un peu. Ça fait du bien de voyager dans le Bordelais parce que on est de la région. Je suis de la région. Les Bordelais qui écoutent ça se retrouvent à travers ce personnage. Donc, c'est intéressant, d'accord ?
Et puis ça. Moi, j'ai fait toutes mes études. Je ne suis pas bordelais, mais j'ai fait toutes mes études.
Ah, tu as fait toutes tes études, d'accord. Et tu dans quoi ?
Ah, moi, j'ai fait une école supérieure de commerce qui s'appelle l'INSEC, qui est en centre-ville de Bordeaux. Donc, mon école avait vu, la première année, avait vu sur la place des Guingamp, c'est le monument aux Girondins qui a un peu bercé mes années d'étudiant.
D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoute. Allez, on fait une pause musicale et on se reçoit tout de suite après pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite.
Au bord de la Garonne belle, j'ai fait mes premiers pas d'oiseau. Plus tard, il m'est poussé des ailes et mon enfance, c'est Bordeaux. Je t'ai quitté mon Aquitaine pour finir mon enfance ailleurs. Loin des regards de tes persiennes et de mes crayons de couleur. Papa m'a emmené à bicyclette à l'école du cours Saint-Louis. Le bruit des roues me faisait fête quand je me serrais contre lui. J'aimais ce papa d'opérette, ce papa musique et velours. Ma mère était toujours inquiète, était-ce d'angoisse ou d'amour? Garonne, garçonne, dans tes veines coule l'alcool, la colle ta source espagnole. Bordeaux, t'as changé ma rebelle, t'es belle avec tes nouveaux quais. Le soleil fait des aquarelles sur les vitres de tes troquets. Picoré de feu ma femelle, dans les cafés où je m'assois, tu éblouis la clientèle avec ton écharpe de soie. Bordeaux, c'est un dessin d'enfance, un dessin d'innocence. C'est l'océan immense qui me tend tous ses bras. C'est ma vie qui commence avec ses espérances. C'est la main de ma mère me tient, j'espère que ça continuera. Bordeaux, c'est ça pour moi. Bordeaux, c'est ça pour moi. Longtemps je te fus infidèle, je t'ai trahi, mais ça fait rien. Qu'on laisse les je me rappelle, on revient toujours d'où l'on vient. Ma belle, ne perds pas confiance, au bout du dernier train, je finirai mon existence à Bordeaux, le cœur près des miens. Au bord de la Garonne belle.
Voilà, après cette pause musicale, nous voilà de retour sur une musique qui est dans le thème, comme d'habitude. Et voilà, on est de retour avec Jean-Luc Aubarbier, pour ceux qui nous rejoignent sur les ondes de radio des Portes de la Connaissance. On est avec Jean-Luc Aubarbier, qui nous avait fait une belle émission sur l'Évangile de Septimanie, qui était un beau livre. Voilà, et aujourd'hui, il nous fait une émission sur Le Fils du Cabaretier, qui est un roman, évidemment. Et on est plongé en plein Bordeaux. Alors, pour les Bordelais qui écoutent l'émission, c'est la belle occasion de voir comment était Bordeaux à cette époque. Alors, justement, puisqu'on en parle, comment était Bordeaux à cette époque ?
Ah, bon, déjà, là, Bordeaux, au XVIIIe siècle, on peut dire que c'est un immense chantier. Puisqu'on l'a tous vu, je dirais, j'ai passé 4 ans à Bordeaux pour mes études, on voit bien que quasiment de la place de la Victoire, même de la gare, on pourrait dire jusqu'au Quinconce, la ville est à peu près entièrement rebâtie à la fin du XVIIIe siècle. Donc Bordeaux, c'est un immense chantier. Alors, tous les beaux monuments que l'on voit aujourd'hui sont élevés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bordeaux est une ville qui est très, très indépendante. Elle est très attachée à son parlement régional, à la cour des aides, qui sont des postes où beaucoup de petits nobles se font embaucher, ils sont rémunérés, en définitive. Ils passent leur vie là. Et Bordeaux, qui est très attaché à son indépendance, va à la Révolution, très rapidement à tout abandonner. Tout très rapidement, on dit, ben tout, voilà, les vieux châteaux, le vieux parlement, voilà, sur la place de l'Ombrière, qui est un bâtiment un peu délabré, mais ça va être très rapidement rasé, très rapidement détruit. Là, il y a déjà, Bordeaux avait sa Bastille, le château Trompette, c'est la Bastille de Bordeaux. Ça a été construit comme la Bastille à Paris pour surveiller les Bordelais qui se révoltaient contre le roi de France. Donc on a bâti sur une énorme forteresse dont il était déjà question, Louis XVI avait donné son accord pour qu'elle soit détruite, on n'avait plus le temps que la Bastille pour la détruire, mais effectivement, elle sera rasée, et là, était prévu de faire une très grande place, la plus grande place d'Europe, pour embêter les Parisiens, qui devait s'appeler la place Ludivine en honneur de Louis XVI, et qui deviendra, bien sûr, tout le monde le connaît, la place des Quinconces, qui est toujours la plus grande place d'Europe, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a vraiment un immense chantier, on a l'impression que tout se construit en permanence. La société se construit, c'est une société vraiment à l'anglaise. Alors c'est vrai que quand on parle du côté anglais de Bordeaux, c'est vrai que les Bordelais ont tout de suite très très rapidement compris que c'est par le travail qu'on s'enrichissait, et que le côté être noble et ne rien faire, c'était comme faisait beaucoup à Paris, on s'enrichit à la cour, c'était pas du tout le modèle des Bordelais, c'était on travaille, et donc effectivement l'émergence d'une bourgeoisie très riche et d'une noblesse qui travaille et donc qui est très riche. C'est le cas des propriétaires de vignobles, qui sont des nobles généralement, et qui, parce qu'ils travaillent, ils deviennent riches. Et effectivement, ce modèle anglais, ce Bordeaux anglais, va être on peut dire que c'est la Révolution avant la Révolution. Bordeaux, pour ça, est un côté magnifique, parce qu'effectivement, tout le côté moderne de ce que devrait être l'Europe et la France est déjà en place à Bordeaux. Et malheureusement, ce qu'on peut dire après, c'est que la terreur et même le fait de rompre avec Napoléon va plonger Bordeaux dans ce qu'on va dire après, on appellera après la belle endormie, c'est-à-dire qu'effectivement Napoléon a promis pas mal, de choses, dont le pont de Pierre, qui devait s'appeler le pont Napoléon initialement, et il devait se construire beaucoup de choses à Bordeaux, il devait y avoir des rénovations, et puis tout va un peu tomber à l'eau avec la fin de l'Empire, et donc l'Empire qui n'est qu'une poursuite de la Révolution. Donc avec la fin de l'Empire, tout va tomber à l'eau et Bordeaux va s'endormir doucement jusqu'aux années du XXe siècle. Voilà, elle a repris un manteau magnifique aujourd'hui.
D'accord. Comment va se transformer Bordeaux vers la fin de l'histoire, parce que les Bordeaux évoluent, le vieux Bordeaux, on connaît bien, tout le monde va dans Bordeaux, dans la ville de Bordeaux, qui est une ville qui est restée ancienne, parce que les constructions sont restées vieilles, parce qu'on a respecté, je dirais, les constructions anciennes, on les a pas détruites, elles sont restées intactes, le vieux Bordeaux est tel qu'il était. Donc comment évolue Bordeaux dans la fin de l'histoire? Comment évolue Bordeaux?
Alors, je dis, à la fin, on voit effectivement qu'après la fin de l'Empire, ça va un petit peu tomber. Mais le Bordeaux ancien que nous connaissons aujourd'hui, c'est un Bordeaux tout neuf dans le roman. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ces bâtiments moi je les ai connus, bien sûr, comme beaucoup de vieux Bordelais, avant les rénovations d'Alain Juppé, donc c'était encore un peu noir, un peu gris, parce qu'il y avait un peu de charbon ou de pétrole qui s'était mis sur les murs. Mais Bordeaux était déjà une ville magnifique, bien même avant sa restauration récente. Mais c'est effectivement, ce Bordeaux-là, il est tout neuf à l'époque. Il est flambant neuf au moment de mon roman. On le voit se bâtir, mon héros qui débarque, il prend une petite chambre à Bordeaux, dans une petite rue, le plus près possible du Grand Théâtre. Parce que pour lui, c'est un peu le Grand Théâtre, c'est le cœur de la vie culturelle et intellectuelle bordelaise. Et également politique quand même. Parce que là, ici, c'est que les jeunes révolutionnaires sont là, donc lui il habite juste à côté, donc il voit tout ce qui s'y passe. On assiste d'ailleurs dans le roman à plusieurs représentations théâtrales, hein, dont certaines sont un peu révolutionnaires. On avait interdit Figaro, Louis XVI avait interdit le mariage de Figaro, qui était une pièce absolument scandaleuse pour l'époque, et donc on assiste à sa première représentation à Bordeaux, où mon héros participe à cette soirée. Voilà, donc on voit, moi j'ai voulu vraiment décrire cette ville, à la fois où on s'amuse, il y a des soirées, il y a beaucoup de bals masqués, énormément de bals. Le roman court un petit peu du bal d'avant la Révolution au bal pendant la Révolution, puis au bal pendant l'Empire avec les merveilleuses, les incroyables et les merveilleuses, qui sont ces hommes et ces femmes d'après la Révolution qui veulent être extrêmement dans une sorte de liberté presque licencieuse en définitive. Voilà, donc j'ai voulu faire vivre tout ça. J'ai voulu donner à travers ce roman ce sentiment un petit peu à mis à part l'épisode de la terreur qui est abominable, qui dure heureusement très peu, mais qui est vraiment abominable, on va dire le Bordeaux c'est plutôt une ville joyeuse. C'est vraiment une ville où on s'amuse, c'est une grande ville de théâtre, une grande ville de musique, une grande ville où il y a beaucoup de sociétés savantes, il y a la franc-maçonnerie bien sûr, à laquelle mon héros va adhérer, on s'en doute bien, c'est pour son protecteur, l'a fait rentrer en franc-maçonnerie pour qu'il puisse avoir des relations, et donc la franc-maçonnerie va participer à tout le développement de Bordeaux. Tous les gens qui comptent un peu font partie des loges et des sociétés savantes. À cette époque-là, fin du XVIIIe siècle, c'est une évidence. Hein. Et donc, ça permet de relier aussi les protestants, les catholiques, les étrangers anglais ou allemands qui habitent à Bordeaux avec les Français. Voilà, tout le monde se mélange dans ces sociétés savantes. Et mon héros, bien sûr, fait son réseau de relations à travers ces sociétés. Voilà le Bordeaux tel que j'ai voulu le voir moi à travers ce roman. Donc à part l'épisode, je dis bien sombre de la terreur que j'ai isolé. D'ailleurs moi j'ai fait, il y a 5 parties dans le roman et j'ai séparé la terreur de la Révolution, puisque vraiment la Révolution à Bordeaux et la terreur sont deux choses totalement différentes, qu'on ne peut pas. Autant à Paris c'est une suite logique, autant à Bordeaux c'est une rupture absolue. Donc voilà, il y a juste une partie noire qui est la terreur, et puis le reste du temps ça se passe plutôt bien. On est plutôt bien dans ce Bordeaux, je crois, de cette époque-là.
L'ambiance de l'époque, après la période de terreur, puisque c'est vrai que la Révolution, ça n'a pas été très gai, ça n'a pas été très joyeux. C'était la période de la Révolution à Bordeaux, elle était comment? Parce qu'à Paris, on a eu la période de la Révolution qui était intense et qui était cruelle. où on a effectivement guillotiné beaucoup. Voilà, mais à Bordeaux, elle était comment cette période-là?
À Bordeaux, la terreur, ça va durer à peu près un an, hein, une grosse année, on va dire. Hein. Alors là, effectivement, ça va être terrible à Bordeaux, mais ça dure en fait relativement peu de temps. Le reste du temps, c'est vraiment plutôt de la bonne entente. Il y a vraiment une bonne et belle entente. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit que ça va se déliter. Bon, d'une part, il y a effectivement, au départ de la Révolution, il y a les gens qui défendent l'esclavage, mais on sait que la Révolution ne va pas abolir l'esclavage. En tout cas, au début, il y a même une délégation qui vient de Saint-Domingue à Paris pour dire non, non, dans laquelle il y a les Noirs et les Métis esclavagistes qui disent non, n'abolissez pas l'esclavage, on en a besoin. Donc, effectivement, malheureusement, ce que voulaient mes héros, ce que voulaient Zéphyr et ce que voulait Corentin, ne se fait pas. Ne se fait pas. Ça devait se faire et les esclaves restent dans leur chaîne. En définitive, c'est pour ça qu'il y aura une révolte à Saint-Domingue. Une révolte, il y aura la révolution à Saint-Domingue, qui sera, elle, extrêmement violente. À Bordeaux, je l'ai dit, ça se passe plutôt bien, mais il va y avoir la grosse fracture, ça va être au niveau du clergé. Lorsque le clergé va se séparer en deux, entre ceux qui vont vouloir jurer, on va demander de jurer la fidélité à la Constitution, et on sait qu'en France, il y a à peu près la moitié qui jure, la moitié qui jure pas, et à Bordeaux, c'est la quasi-totalité des prêtres qui ne jurent pas. Ils ont été très modernes, très libéraux. Je l'ai dit, Champion de Cissé, l'archevêque qui se bat contre les esclavagistes, mais quand on lui demande de jurer la Constitution, il dit non, un prêtre ne dépend que de Dieu, il ne dépend pas de la Constitution. La Révolution a transformé les prêtres en fonctionnaires. Jusqu'à les lois sur la laïcité de 1905, les évêques et les prêtres sont des fonctionnaires de la République ou du Royaume. Hein. On le sait peu, souvent on le dit peu, et donc effectivement, Champion de Cissé refuse, il dit non, il va d'ailleurs migrer lui-même pour sauver sa vie, il va partir alors en Angleterre, il va migrer, parce qu'effectivement, le clergé de Bordeaux sera un clergé qui va refuser le jurer la fidélité à la Constitution, qui sera donc de ce point de vue-là emprisonné, certains seront guillotinés ensuite par la suite quand il y aura la terreur, parce qu'effectivement on voit que la société va se déliter petit à petit, et on voit que les Girondins qui sont des gens très légalistes, ils ne veulent pas la violence, ils veulent passer par la loi, ce qu'on fait normalement en démocratie, ce qui est normal, mais on voit que ça leur échappe, on voit que petit à petit la société ils s'échappent de leurs mains en définitive, et qu'ils se retrouvent en fait totalement impuissants, ils respectent beaucoup la loi, ils veulent la respecter, la société leur échappe. Alors qu'à Paris, les montagnards qui, eux, se posent beaucoup moins de questions et sont beaucoup plus dans l'action, mais effectivement, ils vont, alors qu'ils sont minoritaires au départ, mais ils vont prendre le pouvoir comme ça. Donc effectivement, on voit que la société bordelaise, dans cette révolution, est plutôt douce, c'est vraiment, je suis 92, c'est très doux la révolution à Bordeaux, elle est douce, mais ça va filer entre leurs mains. Voilà, on voit que on peut dire que c'est une chronique d'un malheur annoncé, dans mon roman, j'ai fait ressortir cela, comment effectivement on va voir arriver doucement, progressivement, la violence qui va frapper très fort, puis l'Empire, l'Empire, c'est différent, parce que l'Empire, la violence, elle est plutôt à l'extérieur, c'est plutôt la guerre, et effectivement, il y aura, en Gironde, comme partout en France, des gens qui vont refuser aussi, des gens qui disent la guerre, il y a trop de guerre, trop de morts, ça coûte trop cher, et c'est une des raisons majeures pour laquelle Bordeaux, qui perdra beaucoup d'argent, et les Bordelais perdront beaucoup d'argent, et même de population pendant l'Empire, vont s'opposer à Napoléon.
D'accord. L'ambiance sociale, elle est comment après la période de la Révolution?
Alors c'est pas l'ambiance sociale. Autant Bordeaux était une ville riche, autant c'est une ville qui va progressivement un petit peu s'appauvrir. On voit qu'il y a un petit peu des révoltes du pain. Il y a des gens qui manquent de pain, clairement. Et donc il y a des aides. Les sociétés de Bordeaux aident les plus pauvres, mais on voit que les gens s'appauvrissent très clairement. Parce que la révolution, c'est aussi la guerre. Guerre avec l'Angleterre, guerre avec les Allemagne, l'Autriche, donc effectivement, ça veut dire aussi moins d'exportation, moins de travail, et donc la brillante ville de Bordeaux, qui est jeunée, c'est le bijou du monde pratiquement, c'est la ville la plus brillante du monde, juste à la veille de la Révolution, elle va perdre beaucoup effectivement dans cette Révolution, et dans l'Empire, puisque l'Empire c'est la guerre tout le temps, Napoléon, bon, il faut le reconnaître, c'est pas Hitler, il avait des visions extrêmement intéressantes, extrêmement modernes, à bien des égards, mais par contre, bien sûr, lui c'est la guerre tout le temps, et ça c'est pas tenable. Au bout d'un moment, l'Empire va se perdre par rapport à la guerre. On va suivre un petit peu, parce qu'on suit aussi dans mon roman, d'une part, Désiré Plambellec va s'engager dans l'armée, donc il sera colonel des hussards, il partira avec Napoléon, et puis on suivra le frère bien réel de mon héros imaginaire, c'est-à-dire le général Follet-Saint-Novez, on le suit aussi, qui est quelqu'un qui est très caractériel, qui s'engueule tout le temps avec Napoléon, mais qui est le meilleur tireur au pistolet, le meilleur cavalier, le meilleur sabreur, donc qui est de toutes les batailles, et donc on suit aussi son parcours, son histoire à lui. On le voit depuis son frère, depuis Bordeaux toujours. Hein. Mais on suit son histoire, et puis on voit bien comment, petit à petit, l'Empire se perd dans trop de guerres.
D'accord. La fin de l'histoire du livre, c'est quoi?
Alors, je ne fais pas mourir mon héros d'une paille.
Le héros finit comment?
Alors, le héros finit, il est un vieil homme, riche, respecté, ennobli, et ses enfants sont à Paris, sa fille est à Bordeaux et son fils est militaire à Paris et fréquente les milieux des poètes, en fait, parce que le roman, ce que dit son épouse d'abord, à mon héros, c'est qu'ils ont connu l'époque des avocats, la Révolution, c'est l'époque des avocats, et Corentin est un avocat, il est l'homme qui a, enfin, c'est parti de cette, tous les révolutionnaires sont avocats, d'ailleurs, qu'ils soient girondins ou montagnards, sont tous avocats. Ensuite, il y a eu l'époque des militaires avec Napoléon, où ceux qui réussissent, ceux qui font l'ascension sociale, ce sont les militaires, et le roman s'achève au moment où toute une bande de jeunes écrivains inconnus, Victor Hugo, Balzac, ils sont encore inconnus, ils débutent, ce sont tous Alexandre Dumas, enfin, il y en a tout un tas, qui effectivement sont les jeunes romantiques, c'est l'école romantique française qui apparaît, ils sont d'ailleurs tous très monarchistes, Victor Hugo deviendra de gauche beaucoup plus tard, ils sont tous très ultra-monarchistes d'ailleurs, et effectivement, ils donnent une nouvelle mode, un nouveau ton à la société française. Ils sont très parisiens, donc là, effectivement, là, on s'éloigne de Bordeaux, mais on finit effectivement sur cette image d'une société qui a connu, en fait, en quelques décennies, l'ère des avocats, l'ère des militaires et l'ère des poètes.
D'accord. Très beau livre. Ça donne envie de connaître, de le lire, parce qu'on voyage dans l'ambiance de la ville de Bordeaux à l'époque de la Révolution, après la Révolution, et on a envie de savoir, à travers ce personnage, un petit peu, de voyager, de voir ce qui s'y passait, quelle était l'ambiance, comment on vivait à l'époque, etc. C'est un petit peu un voyage dans le passé, dans notre bon vieux Bordelais, et c'est très intéressant. Alors, je vous conseille, si vous voulez ce livre, alors, dis-moi, le livre, il est apparu aux éditions
aux presses de la Cité. Il est édité chez un grand éditeur parisien, les presses de la Cité, donc il n'y a pas de problème. Là, on le trouve partout. Il est récent encore. Il est sorti il y a un an, à peu près. Donc, on va pouvoir le trouver dans toutes les bonnes librairies bordelaises, et elle ne manque pas.
Bon, d'accord. Donc, n'hésitez pas. Le fils du cabaretier, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies bordelaises, comme dit Jean-Luc. Donc, on le trouve sur Amazon.
Oh oui, monsieur, oui, tout à fait. Oui, là, on peut l'avoir partout. Là, c'est de la grosse diffusion, et voilà. Il a eu, d'ailleurs, on peut le dire, j'ai eu deux prix littéraires, dont le prix Saint-Estèphe, donc Saint-Estèphe en Gironde, qui est un prix littéraire estimé, hein, il est recherché, puisqu'il y a un jury quand même, c'est avec des gens assez connus, et voilà, donc il a reçu le prix Saint-Estèphe 2025, ainsi que le prix de Richard Cœur de Lion, qui est décerné en Limousin, voilà, donc c'est un livre qui a été primé, qui plus est.
D'accord. Merci Jean-Luc,
merci à toi.
Pour ce beau témoignage sur ce livre, sur ce roman, Le Fils du Cabaretier, merci beaucoup. On se rejoindra pour une autre émission dont on parlera du code Télémaque, d'accord ?
Tout à fait.
Voilà, on fera une autre émission sur... Et on fera une émission aussi sur l'époque où... je sais plus le titre, je me rappelle plus du titre du livre, c'était un livre qui parlait... du nazisme et de l'islamisme.
Ah oui, c'est celui qui s'appelle le testament noir.
Voilà, le testament noir. On en parlera. Donc c'est très intéressant. Donc on se retrouvera pour deux livres, deux bouquins très intéressants. Donc soyez à l'écoute à ce jour-là. Vous voyagerez et on fera un grand voyage avec Jean-Luc pour ces romans qui sont tirés de faits réels, parce qu'en fait ce sont des romans, mais on vit à l'époque où, même si c'est un roman, même si c'est romancé, on vit des choses réelles à travers ces romans. Donc c'est très intéressant. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. À une prochaine émission.
Merci à vous.
À une prochaine émission.
À une prochaine fois.
À une prochaine
avec
émission.
Plaisir.
Et je vous annonce donc la prochaine émission. Bah, vous regardez toujours sur la page Facebook de O2 Radio, les auditeurs d'O2 Radio ont la parole, vous pouvez y aller, n'hésitez pas à y aller, je vous l'ai déjà dit, allez sur cette page, allez sur la page des auditeurs d'O2 Radio ont la parole et sur les portes de la connaissance d'O2 Radio, allez voir les émissions, ce qui est prévu, on les met toujours un mois à l'avance, donc vous savez un mois à l'avance ce que vous avez comme émission, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les auditeurs d'avoir écouté cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.